vous allez être distrait par les images qui va contribuer à la complexité de l'exercice. Puisque, évidemment, YouTube étant quelque chose d'absolument monstrueux, j'ai moi-même pondu quelque chose de monstrueux dans lequel je vais devoir mutiler au fur et à mesure que je vous parle pour ne pas vous tenir ici jusqu'à demain matin. Sans plus tarder, je vais commencer par... L'univers vertigineux et virtuellement infini de YouTube, dont le Big Bang remonte à février 2005, est désormais un des faits de civilisation majeur de ce début de millénaire. Avec 60 heures de nouvelles vidéos publiées chaque minute et 800 milliards de visiteurs uniques par mois, qui y passent en moyenne 15 minutes par jour, il constitue le troisième site le plus visité d'Internet après Google et Facebook. Emblème de la culture de la convergence, définie par Jenkins, convergence transmédiatique qui caractérise la nouvelle iconosphère, YouTube est un conglomérat de bases de données transformées en spectacle, l'art de regarder des bases de données, selon la formule de Geert Lovink, tout à la fois archives, bibliothèques et galeries multimédia, mais aussi réseau social, bien que son lien avec l'ethos web 2.0 soit en fin de compte problématique, voire nouveau médium cannibale émergeant de la phagocytose de tous ses prédécesseurs. Or, malgré l'importance cruciale de ce nouveau territoire du cyberespace qui est en passe de devenir une gestalt à part entière, celui-ci reste une véritable terra incognita dans les études académiques, à peine cartographiée par des anthologies pionnières telles que Video Vortex ou le YouTube Reader. C'est donc à l'émergence d'une véritable branche de médiologie, les YouTube Studies, que cette conférence voudrait modestement appeler dans le sillage du dossier Pop en Stock que nous publions à la veille du printemps érable. Pour ceux qui auront déjà lu les textes sur le dossier YouTube, donc c'est une variation autour de cette thématique. Donc je vais me permettre, comme je dois mutiler et sauter au fur et à mesure, je vais me permettre donc de sauter les choses que vous retrouverez dans ces textes-là. Donc c'est à partir surtout du texte pionnier de Omar Calabrese, L'ère néo-baroque, publié en 1987, l'année même où Madonna se phagocytait elle-même pour la première fois dans les remixes de You Can Dance, pratique alors toute nouvelle. Donc ce texte de Calabrese définissait l'iconosphère contemporaine à partir d'une série de binômes. Et c'est par ces binômes-là que nous allons tenter de cerner l'univers foisonnant et toujours déroutant de YouTube. Un univers de la réitération virale. Nous y retrouvons tout d'abord l'esthétique de la répétition, caractérisée selon Calabrese par la variation organisée, le polycentrisme et l'irrégularité réglée. Force est de voir que le mécanisme même de YouTube est celui de la réitération de contenu, le plus souvent extrait de médias rivaux, dont la jadis toute-puissante télévision, qui était précisément le médium répétitif dont s'inspirait Calabrese pour son analyse. Se dissémine alors de façon virale la réitération de certains moments acmés, qui vont du plus spectaculaire, les attentats du 11 septembre, au pur non-événement, dont la très fatigante et régressive série de Nipplegate, devenue presque un sous-genre en soi, installant un voyeurisme de la dérobade tout à fait étonnant dans le contexte de pornification à l'œuvre partout ailleurs sur la toile. Réitération de moments acmés, au point que les chaînes prévoient désormais stratégiquement leurs moments YouTubeables. D'où, pour reprendre le dernier exemple, les brassières des présentatrices qui tombent stratégiquement, etc. C'est ainsi que Nelly Cambori et Pavlos Hatzopoulos caractérisent la « online video aesthetics » avant tout comme répétition. Online video feeds on repetition. Repetition is the key that distinguishes the economy of online video from, let's say, the economy of television. In turn, YouTube's huge success is partly due to its ability to make repetition almost effortless. Je vais beaucoup couper sur les citations. Et de fait, il ne s'agit pas tant dans YouTube de voir que de revoir compulsivement, selon la structure archaïque de la redondance narrative destinée aux enfants, que l'on peut rapprocher du célèbre Fort da Freudien. Mais aussi et surtout de donner à voir dans une transmission frénétique qui tient de plus en plus lieu de commerce social, au sens où l'on employait le terme à l'ère des Lumières et du capitalisme naissant. Comme le rappelle Borges, YouTube is in itself a social network site, one in which videos, rather than friending, are the primary medium of social connection between participants. Vecteur de la refondation du web en web 2.0, YouTube s'est essaimé dans l'ensemble de la toile au point de devenir, par réduplication de ses contenus, un des piliers de tous les autres réseaux sociaux, les imprimant de son image. En conséquence, ceux-ci montrent bien souvent le spectacle quelque peu décevant d'une simple foire aux clips, gigantesque ruche où les individus se disent davantage par ce qu'ils regardent et écoutent que par une quelconque essentialité qui leur serait propre. D'où la réutilisation ludique du terme biologique du même, cher au paradigme informationnel et évolutionniste de la nouvelle synthèse darwinienne, renforcée par l'image pandémique du virus pour caractériser la foudroyante virulence de la transmission culturelle à l'ère de l'accélération terminale. YouTube se conçoit ainsi lui-même comme une machine de réduplication de mèmes, à l'instar des organismes vivants, une machine où tout devient mème ou susceptible de l'être. Qu'il s'agisse d'inflation humoristique par accumulation hyperbolique ou de visée subversive, le célèbre mantra de Anonymous, reproduce, 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 la répétition est au centre du dispositif youtubéen, comme le montre Burgess à partir d'un exemple de viralité parmi tant d'autres, celui du clip Chocolate Rain. Et il y a tout un article de Burgess qui analyse comment Chocolate Rain est devenu un mème à partir de, d'autres sites qui l'ont répété, etc. Mais la répétition est aussi un effet esthétique en soi cher à l'univers YouTube. Prolongeant son effet traditionnellement comique, elle conditionne plusieurs sous-genres youtubéens spécifiquement centrés sur l'itération. Parmi ceux-ci, nul plus populaire que l'accumulation d'accidents et de chutes, alliant l'esthétique de l'aléatoire et de l'échec, epic fails, à la logique du slapstick et de la mécanisation du vivant, postulée par Henri Bergson comme essence de l'humour, le tout poussé jusqu'à son hypertrophie terminale. La répétition peut même aller jusqu'à se réitérer elle-même dans l'un des effets YouTube les plus néo-baroques, spécialement destiné aux dopeheads qui sont souvent les figures du narrateur implicite de maintes merveilles du site, celui du looping en boucle, tel que l'interminable reprise du célèbre Hyper Toad de Futurama, ou encore de phrases cultes comme certaines dans Bob l'éponge, Les Simpsons, etc. Tout moment, YouTube est ainsi passible d'être étiré dans une répétition compulsive qui met le spectateur en transe, en état de suspension de l'incroyance ou tout simplement en colère. On retrouve ainsi parmi les suggestions de vidéos similaires l'annonce de Keyboard Cat 10 Hours, Retarded Horse and Batman on Drugs 10 Hours, One Hour of Diggy Diggy Hole, Hitler Says Ya yeah for 10 Minutes, etc. Qui plus est, par le fait que l'on peut invariablement répéter le clip que l'on vient de regarder, tout clip peut virtuellement devenir une boucle infinie, ce qui provoquerait à terme le trou noir ultime de ce noisy channel particulièrement hanté par l'entropie. Cette esthétique obsessionnelle, et le terme est essentiel pour comprendre cet univers qui tourne à la compulsion, l'esthétique de la réitération est consubstantiellement liée, comme le suggérait jadis Calabresi, à une logique de la variation. Cambouli et Hatzopoulos insistent aussi ainsi sur la dynamique de répétition et différenciation d'Eridéenne à l'œuvre dans YouTube. Our point is that if all repetition is repetition with a difference, then YouTube may be based on repetition, but it constantly produces and reproduces difference. Ce jeu de la différence, devenu ici véritable différence, on fait tous des blagues d'Eridéenne de temps en temps, ce jeu de la différence par réitération est notamment à l'œuvre dans les multiples réduplications et détournements d'une même vidéo sous des milliers de versions, allant de l'humoristique au plus freak. Tous les pays ont ainsi connu des variations locales d'une des stars indiscutées de YouTube, le Hungry German Kid, véritable égérie de la crise du sujet hyper-technologique. Et nous pourrions, parodiant 1968, affirmer que nous sommes tous des enfants allemands fâchés, quelquefois, ajouterait Norman Bates. C'est de fait l'extension audiovisuelle d'un autre phénomène essentiellement né-baroque, qu'est le sampling et du mixage, pilier de la musique populaire contemporaine, que la théorie esthétique de Calabrese semblait par ailleurs annoncer, au moment où elle commençait à se faire dans le techno, le hip-hop, etc. Les deux univers fusionnent d'ailleurs dans maintes youtuberies, telles que le mix de Ding Dong slash Harry Potter Saga, version Deezer. This is killing my head, lit-on dans les commentaires d'une de ces âmes damnées de la compulsion youtubéenne, incapable de se débrancher de cette comptine punitive. Cette esthétique sérielle de la variation détermine les nouvelles pratiques de la métacréation youtubéenne, articulée autour de la mort de l'auteur, vaticinée jadis par Barthes, et qui signe désormais la naissance du youtubeur. La valeur générative de YouTube, au sens chomskien cette fois-ci, et l'on voit à quel point les pionniers du structuralisme ont conditionné l'émergence de la cyberculture qui en est en quelque sorte le prolongement et la mutation néo-baroque, est ainsi davantage marquée par les phénomènes de diffusion et de réception devenus principaux moteurs du système que par ceux de production, écho de la mutation structurelle du capitalisme de consommation dans son ensemble. Les œuvres YouTube, le qualificatif lui-même est quelque peu gênant, défiant nos catégories habituelles de classification, relevant à la fois du message, de l'artefact, de la blague, du produit marchand et de l'œuvre de l'art, sont ainsi avant tout définies par ce que Burgess, reprenant Jenkins, appelle leur pouvoir de dissémination, spreadability. Donc là, il y a toute une explication de ce terme que vous connaissez sans doute. La popularité qui rendrait certaines œuvres virales, une infime proportion en réalité au milieu d'une jungle de bruit informationnel, tiendrait alors de leur capacité, je cite, à inviter à la participation et gratifier la répétition et l'engagement durable, par opposition au cycle court d'autres œuvres dont le mémétisme n'est qu'éphémère. On pourrait encore ajouter quantité de tropisme de la variation organisée qui régit YouTube, et donc là effectivement il y aurait quantité d'exemples. De fait, les ramifications elles-mêmes rhizomatiques de la réitération par ailleurs très lacaniennes de YouTube, sont impossibles à énumérer. Il devient ainsi le signe de cette poétique de la répétition qui semblait déjà pour Calabrese le seul réflexe possible dans le contexte de sursaturation de la sémiosis dans laquelle nous sommes émergés. Je cite Calabrese, « Thus the neo-baroque pretends to be dynamic but is actually static. Unlike a genuinely dynamic epoch, by which I mean revolutionary, neo-baroque taste is represented as though in perennial suspension, stimulated but not inclined to upset categories of value. » Un univers frénétique. Reprenant l'analyse de Severo Sarduy sur l'isomorphisme entre forme artistique et scientifique du polycentrisme au XVIIe siècle, Calabrese conçoit la frénésie de l'image comme crarotope typiquement néo-baroque. Le vidéoclip, le spot publicitaire, les jeux vidéo et leur commune influence sur le récit cinématographique se situent dans cette mouvance qui redéfinit le rythme de notre iconosphère en général. Le rythme iconique, perçu par Wolflin comme une caractéristique essentielle du style baroque, se voit ainsi radicalisé en syntonie avec l'accélération générale étudiée par Virilio dans la vie quotidienne des sociétés post-industrielles, l'accélération du réel succédant à l'accélération de l'histoire. L'esthétique du clip YouTube, héritière tout à la fois du trailer, du vidéoclip et du spot qu'elle intègre, par ailleurs tous en son sein, intronise cette esthétique de la frénésie. Forme de la brièveté ultime, le clip YouTube installe un rythme de consommation boulimique qui redéfinit notre rapport au récit et à l'image, consommés tous deux en des temps records, et tout de suite substitués par des nouveaux contenus surgis de multiples fenêtres qui entourent tentatrices toutes capsules publiées sur le site. En cela, le site web est l'héritier direct de la pratique télévisuelle du zapping, qui s'est désormais imposée comme mode privilégié de la réception. YouTube lui-même fonctionne majoritairement comme relais de cette technique, alliant à la fois réitération, sampling et réfrénésie pour en faire une forme médium, essentiellement néo-baroque en termes calabrésiens. Et comme pour beaucoup d'effets qu'il hypertrophie en les maximalisant, le zapping est ici poussé jusqu'aux lisières du trouble du déficit de l'attention, pathologie essentiellement néo-baroque. Comme le signale Geert Lovink, attentive watching and listening have given way to diffuse multitasking. When we sit down at the computer, we all get ADHD. During video clips, which last an average of just 2.5 minutes, we jump up and down, sing along, play air guitar. Bon, il continue, c'est une citation assez drôle sur les réactions de notre manque d'attention. Cette pathologie de la réception transforme par ailleurs les récits eux-mêmes, à commencer bien entendu par les récits télévisuels tels que Family Guy, dont le short attention span style of cutaway humor est parodié dans le cartoon sitcom transgressif rival South Park. Il y a un épisode célèbre où South Park se moque de Family Guy. L'effet boulimique de cette frénésie, pure célébration de l'accélération devenue autotélique et produisant massivement de l'oubli, nous fait constamment osciller entre l'euphorie perpétuelle que critique Bruckner dans son essai homonyme et l'entropie. Elslander, par exemple, nous fait la réflexion. On the one hand, a site like YouTube can be addictive as one video drags you along to another. Yet after an hour or so, one realizes on what fine a line one has to balance to keep one's sanity between the joy of discovering the unexpected, the marvelous, and occasionally even the miraculous, and the rapid descent into an equally palpable anxiety. Allant de pair avec la décomposition forcenée des breakbeats dans la musique techno, la recherche jusqu'au boutiste de l'instant acmé culmine alors paradoxalement dans une anesthésie profonde, renforcée par la prolifération et la subdivision de supports qui constituent la mosaïque YouTube, véritable invitation à la dérive infinie. Bombardé par l'appel des images syncopées, le spectateur est ainsi plongé dans un polycentrisme nouveau, centre excentré de sa propre perception, comme c'était déjà le cas dans l'espace architectural et urbanistique de l'âge baroque. On passe alors de l'écran classique, encore balayé par le regard du spectateur, à un territoire qu'il faut explorer et dans lequel nous devons errer. Le spectateur n'est plus le témoin invisible et idéal d'une scène qui se déroulerait dans un univers diégétique, d'où découle toute l'éthique du plan séquence cher à Hervé Bazin. Il est plutôt un éternel sursaut, trop absorbé par sa propre quête, qui n'est en fait qu'un perpétuel appâtage et une constante dérive dans la jungle des hyperliens pour observer véritablement ce qu'il survole au propre et au figuré. Un univers excentrique. Incarnation de la pulsion centrifuge du baroque, l'excès est à la fois de l'ordre du contenu et de la représentation, constituant le noyau même de l'iconosphère contemporaine. Tout y est marqué par ce que Paul Ardenne appelle les esthétiques de la limite dépassée, sous-titre de son livre sur l'extrême. Reprenant l'esthétique baroque du monstre, de l'horreur et de l'obscène, notre iconosphère est mortellement fascinée par le trash, le gore, le X et le freak. La culture de l'excès par les marges trône ainsi sur la société de la révolte consommée, théorisée dans The Rebel Cell par Joseph Heath et Andrew Potter, très fortement véhiculée par les industries culturelles de la mode et du rock, mais aussi amplifiée par le flux télévisuel. Cette triade, qui informe le gros du contenu YouTube, multiplie les rituels de l'excès, qui, d'une première période hard et transgressive, allant des 60s à la réaction néoconservatrice des années 80, sont passés à un régime de récupération, marchandisation et institutionnalisation, selon l'analyse désormais classique de Gilles Lipovetsky dans L'ère du vide. Dee Ann Ward et Marilyn Manson sont deux icônes parmi tant d'autres de cette banalisation assimilatrice de la transgression, qu'elles proviennent des fringe cultures millénaristes ou du body art extrême. Bien que limité par une relative surveillance de contenu qui le sépare de la pornosphère web, où l'on retrouve néanmoins son envers symétrique YouPorn, l'univers YouTube est tout entier voué à la célébration des excès en tout genre, que ce soit dans le sens du ratage, les epic fails, si viraux, du dérapage quelconque, qu'il soit politique, à la Lars von Trier, ou érotique, tel les Nipplegate déjà évoqués, du fait divers, de l'anomalie, de l'exploit sportif ou aventurier, mais avant et surtout de l'insondable bêtise qui eût fait les délices coupables de Flaubert. Aménagé par le médium télévisuel dont il signe une véritable mutation, le règne de l'idiot du village, fut-il global, fut jadis finement cerné par Umberto Eco dans un petit texte célèbre, « Comment retrouver l'idiot du village à la télé ?» Je cite, « Et voici l'admirable inversion du paradigme à laquelle nous assistons. Exit le personnage du comique brocardant le débile inoffensif. Starisation du débile en personne, tout heureux d'exhiber sa propre débilité. Tout le monde est content. Le gogol qui s'affiche, la chaîne qui fait du spectacle sans avoir à rétribuer un acteur, et nous qui pouvons à nouveau rire de la stupidité d'autrui en satisfaisant notre sadisme. Si l'idiot du village s'exhibe en jubilant, nous pouvons rire sans remords. » Inutile de dire à quel point YouTube pousse ce règne du nouvel idiot planétaire jusqu'à l'hyperbole. Non seulement par réduplication des idioties télévisuelles dont on traque les moindres manifestations, mais par la création de nouvelles figures idiotiques. Enclenchant de vrais phénomènes de mimotisme, le moronic chic qui traverse certaines sous-cultures, des skaters aux douchebags, celle-ci certifie la régression infantile profonde qui caractérise la jouissance YouTube. Automatic infantilization occurs because authority is nowhere in sight, écrit Geert Loving. Le néo-idiotisme YouTube est en quelque sorte la figure de proue de ce culte à l'excentricité théorisé par Calabrese qui remonte à l'esthétique des cours baroques, revue dans le contexte de la société du spectacle conspuée par Guy Debord. Emblème de l'hyper-individualisme néolibéral dans les sociétés d'hyperconsommation, ce culte est intronisé par des superstars de la freakitude, telles que Lady Gaga, qui baptise affectueusement ses fans de Monsters et se pare elle-même du titre ouvertement psychanalytique de Mother Monster. Barbara Creed a dû en jubiler. Mais aussi la version arty trash de Dee Ann Ward, qui caractérise, voire érotise en un nouvel amour monstre, l'esthétique de la laideur entre le corps malade de DJ Hightech, la beauté mutante de Yolandi Visser et le douchebag chic de Ninja. C'est encore la friquitude qui anime toute une série de pratiques culturelles, telles que l'univers du cosplay ou encore l'obsession pour les modifications corporelles à la lisière du post-humain, tel l'étalage des weird tattoos. YouTube fonctionne à ce sujet comme véritable disséminateur de la freak culture, transformant n'importe quel écart de la marge en phénomène de masse néo-grotesque. Son propre caractère viral et mutant en fait un pur phénomène de l'excès et la contagion tératologique. Pour preuve, la prolifération de mèmes et de stars emblématiques de ce nouvel univers, dont nos chers hyper-idiots déjà évoqués. Et vous avez là, qui défile en continu, une illustration des différents mèmes de cette époque. Icône des nouveaux processus de starification par le grotesque, Charlie Sheen on drugs fait le tour de la cyberplanète, où dans une échelle plus locale, les amis de Kevin interpellent le Québec, s'interrogeant sur son identité profonde. Sous couvert d'humour décalé, véritable capsule de rire pour alléger la tâche des nouveaux esclaves du nouvel ordre mondial, la télé à leur ordinateur et smartphones, comme jadis les galériens à leur RAM, il s'agit le plus souvent de l'érection d'un nouveau grotesque qui radicalise l'esthétique de la laideur jadis prônée par la tradition romantique. Poussé aussi, encore une fois, jusqu'au bout, dans des phénomènes qui sont très baroques, comme la fascination pour les nains, 63 700 entrées dans la recherche YouTube, ces petits héros pour un temps d'attente diminué, selon le célèbre terme de Christopher Lash, American Life in an Age of Diminishing Expectations. Sans oublier, bien entendu, les gros, devenus les derniers parias de notre euphorie perpétuelle dont on peut légitimement se moquer, symbole grotesque d'une opulence hypertrophiée et hors de contrôle qui n'est plus de mise dans la société où le luxe rime désormais avec minimalisme et fitness. Forme particulière du culte de l'excès, la culture du risque, analysée par quantité de sociologues contemporains, le plus connu étant Ulrich Beck, s'allie avec l'excentricité dans des clips de défis et de records absurdes dans le sillage de hits télévisuels tels que I Bet You Will ou Jackass. Remy Gaillard et sa devise néo-situationniste, c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui, deviennent ainsi un phénomène YouTube tout en proposant le détournement de la culture du défi dans la société spectaculaire. à la fois image du nouvel héros YouTube, dégradation de la dégradation au sens lukacien, et de son consommateur implicite, le sujet freak, comme son semblable, son frère baudelairien, le borderline est le héros culturel du nouveau hyper-individualisme, pilier, comme l'on sait, de notre système idéologique. Et là, j'ai une si longue citation en espagnol de Gerard Imberta en Cine Imaginarios Sociales. Le sujet, j'essaie de traduire en même temps, le sujet borderline est un sujet en rupture avec le système, désintégré à la dérive, avec la perte des références spatio-temporelles. Il n'est pas forcément marginal au sens socio-économique du mot, mais il se situe dans les marges et il peut tomber dans l'anomie et les conduites de risque. C'est un sujet tenté par le désordre, l'irrationnel, fasciné par la violence, inquiété par la mort, en un état d'entre-deux entre la raison et la déraison. Cet entre-deux entre la raison et la déraison synthétise d'ailleurs très bien l'univers YouTube, tel qu'il se montre à nous pour peu qu'on s'en distancie. De fragments et de détails. Dominé tout à la fois par le fragment et le détail, YouTube pousse aussi ces deux catégories chères à Calabrese jusqu'à l'hypertrophie. La fragmentation est la base même du découpage des contenus YouTube, que ce soit sous la forme d'extraits parasités d'autres médias, d'émissions télé, des films, de matchs, etc., ou du contenu créé expressément pour sa diffusion sur le site. Elle opère de fait une décontextualisation qui, outre ces aspects idéologiques dénoncés par plusieurs tenants de la culture critique contemporaine, la décontextualisation étant un effet délibéré du capitalisme terminal, conditionne une esthétique, voire une ontologie. Online video, in a fashion more reminiscent of computer games than cinema or television, devalues beginnings and endings, écrivent Kambouri et Hatzopoulos dans une analyse symptomatiquement dévolue aux vidéos YouTube de violence raciale. Et donc il y a tout cet article sur comment le fait qu'il n'y a pas de contexte encourage la réduplication de la haine raciale sur YouTube. Cette dynamique de fragmentation est intimement liée au culte du détail que le sémiologue qualifie d'effet porno qui domine notre iconosphère. Proche de l'image frénétique, la rhétorique de la fragmentation privilégie le détail, que ce soit dans l'orgasme, les comshots pornographiques, l'agonie, l'obsession du détail dans les mutilations du gore, la performance sportive, nouvelle grammaire de la retransmission des matchs, ou le désordre affectif, premier plan des sujets larmoyants dans les talk shows. Poussé par sa logique d'archivage et de catalogue, YouTube a créé ainsi des nouvelles sous-catégories du fragmentaire, telles que ces étonnants body counts qui résument les films d'action à un montage épileptique d'agonie soigneusement décompté. C'est en général le triomphe des compilations, des best-of, best-of drunk pranks, stupid bets, etc., et des top 10, my top 10 Disney saddest moments, top 10 bizarre anime deaths, etc., jusqu'à arriver au pur vertige de ces 500 movie moments en 10 minutes. Donc, un peu comme ce que vous êtes en train de voir. C'est aussi la figure youtubéenne du décompte, proche des listes rabelaisiennes, où se disait la crise inquiète de la Renaissance, avant le tournant baroque. Ainsi, le décompte des fois où les acteurs emploient le F-word dans un film, ou toute autre récursivité, telle que la phrase « You can't park here », les femmes giflées, les nains abusés sur scène, ou encore leur juste vengeance. Le culte du détail devenu fétichisme dans quantité de sphères de notre culture d'hyperconsommation est jadis très présent dans l'art de l'ère baroque, tel que l'a superbement montré Daniel Arras, renvoie sans doute à une crise de l'idée de totalité, contemporaine du déclin des grands récits. Il n'est d'ailleurs d'illustration plus éclatante de cette idée exposée jadis par Lyotard que la prolifération des micro-récits sans transcendance possible qu'étale YouTube, pur fragment de fragments égarés dans les ruines de la représentation. Un univers instable. L'instabilité et la métamorphose constituent le noyau dur de l'iconosphère néobaroque. L'excès pousse ainsi le polycentrisme vers une turbulence des formes. C'est là où YouTube, et partant la toile dans son ensemble, montre de façon éclatante tout ce qui le distingue du projet encyclopédique tel que pouvait le concevoir l'âge classique et les Lumières. L'on sait la cohérence de l'épistémé encyclopédique à l'âge de la représentation, de l'ordre, de l'identité et de la différence, si finement analysée par Michel Foucault dans Les mots et les choses. Cette cohérence trouva précisément dans l'encyclopédie avec majuscule son symbole majeur. Le but en était ainsi établi par Diderot dans un texte célèbre. Je cite « Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux devenant plus instruits deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. » Mais ce rêve utopique n'allait pas sans une certaine dose d'angoisse épistémologique patente dans le prospectus de la même encyclopédie. Et là, il y aurait une citation, mais je ne vais pas la reprendre. C'est que cet épistémé était encore menacé, dirait-on traumatisé, par son envers, voire en termes hegeliens, son négatif. Son envers, précisément, baroque, qui avait momentanément brisé l'harmonie de l'humanisme de la Renaissance en un véritable âge de la perte de la ressemblance, où l'univers s'était vu troublé, sans repère, sans mimésis et sans vérité. L'univers baroque marque non pas l'inversion du projet classique, mais comme sa perte de contrôle, entraînée par une réversibilité des apparences, où la réalité devient la fiction, le moi devient l'autre, l'écriture pur jeu d'oxymore, et le rêve se confond indissolublement avec la veille. Dans YouTube, le projet encyclopédique devient fou, c'est-à-dire néo-baroque. Ici, nul arbre des connaissances qui permettent de hiérarchiser et d'ordonner les choses et leurs représentations, de réfléchir entre les choses, je cite Foucault, des rapports de similarité ou d'équivalence qui fondent et justifient les mots, les classifications, les échanges. On est beaucoup plus proche de l'autre de la raison encyclopédique classique, ces hétérotopies chères à Borges, par lesquelles Foucault ouvrait précisément les mots et les choses. Et je cite, célèbre début, ce texte de Borges m'a fait rire longtemps, non sans un malaise certain et difficile à vaincre. Peut-être parce que dans son sillage naissait le soupçon qu'il y a pire désordre que celui de l'incongru et du rapprochement de ce qui ne convient pas. Ce serait le désordre qui fait scintiller les fragments d'un grand nombre d'ordres possibles dans la dimension sans loi ni géométrie de l'hétéroclite. YouTube fonctionne comme une véritable hétérotopie en acte, qui nous invite à une circulation sans cesse déstabilisée et déstabilisante, passant dans ses recommandations, en ce jour du Seigneur du 17 février 2012, où je m'étais livré à l'exercice, du nouveau film de Denzel Washington, A Weekend on Mars, de The Cramps, le film d'horreur de Kindred, un extrait d'un documentaire sur l'héroïne, ou encore How to Pick Up Girls with Magic Lipstick On. Le tout, comme dans une autre célèbre nouvelle de Borges, serait censé tracer une sorte d'autoportrait du consommateur, en l'occurrence moi, basé sur les paramètres de ses recherches dans le passé plus récent. Outre l'hétérogénéité totale de ce mini-catalogue, et j'aurais du mal à retrouver dans toutes mes expéditions YouTube qui m'ont pourtant mené, comme tout un chacun, vers des territoires bien plus aberrants, qu'est-ce qui a pu me rapprocher du Magic Lipstick ou de Denzel, acteur auquel, malgré son talent, je ne voue aucun culte. Donc, c'est la logique même d'une perpétuelle différence qui s'affirme, et encore une fois, l'on trouve incarné en YouTube plusieurs notions qui définirent jadis abstraitement la crise de la modernité philosophique. Perpétuelle invitation au voyage, les suggestions de YouTube viennent brouiller le fil prétendument linéaire de nos recherches par entrée de sujets encyclopédiques, elles-mêmes brouillées par la pure prolifération rhizomatique des contenus et des liens souvent ineffables qui les unissent. Ainsi, une recherche par mots-clés sur YouTube nous donne, YouTube nous donne dans l'ordre NeoCube, The Next Rubik's Cube, YouTube Symphony Orchestra, La Famille Ouf, une compilation de Woman Drivers, autre grand sous-genre devenu classique, en italien, Fille de France Beurette, Logobi et le danse sexy, Very Bad Blag, South Park YouTube Episode, Drifting Motorbike, One of the Funniest Kids in YouTube, la chanson T'es bonne de Max Boublil, et ainsi de suite. Si ce n'est pas aussi drôle que l'encyclopédie chinoise imaginée par Borges, c'en est tout aussi déroutant. Prolifération doublement instable, car les contenus ne cessent de se modifier en temps réel, et nulle recherche donne les mêmes résultats. Toujours enflé par une accumulation désordonnée qui semble ne pouvoir connaître aucune limite, en mai 2010, YouTube annonça avoir franchi le cap des 2 milliards de vidéos vues quotidiennement. Et comme l'affirme le site, chaque minute, 48 heures de vidéos sont mises en ligne, soit presque 8 ans de contenu ajouté chaque jour. Cet univers est néanmoins guetté aussi par ses propres formes d'entropie, notamment la disparition sans préavis des contenus, soit pour des raisons de copyright et un futur incertain pan sur YouTube au moment même où on parle, à l'ombre de la SOPA, soit par clôture du compte qui les hébergeait. D'où l'impression d'une sorte d'organisme vivant, bien qu'on puisse tout aussi invoquer l'image de la métastase, animée par l'instabilité des contenus et des formes qui rythment le plus immense fourre-tout jamais imaginé par l'homme. Un homme, ne l'oublions pas, largement absent du processus mécanisé d'alimentation du site, puisqu'il ne peut y avoir de véritable contrôle et de gestion unitaire des contenus dans un tel dégoulis constant de flux audiovisuels. YouTube is a mess. Videos are hard to find, easy to misname, and quick to lose, écrit Juhasz. The very paucity of its functions feeds its primary purpose. Moving users' eyeballs aimlessly and without direction, shim, or map across its unparalleled archive of moving images. The site signals to us in its conscientious failings that it is not a place to hunker down or hang out with others, not a place within which to seriously research or study, not a place for anything but solo digital play. Reflet de cette société incertaine théorisée par Miranda un an avant l'apparition de l'œuvre de Calabrese, l'instabilité constitutive de YouTube renvoie directement à celle qui régit notre représentation du monde, notre rapport au savoir, les manifestations de nos pouvoirs et l'économie de nos fictions. Emblème d'une société inachevée qui découvre peu à peu son impossible transparence et accepte sa propre étrangeté, je cite Miranda, elle correspond à une perte de la centralité qui va de pair avec l'attraction pour l'anomie dégagée par Imbert dans les œuvres de notre iconosphère. L'instabilité confine ici, comme dans la sphère néobaroque, à la métamorphose, mais aussi à ses formes connexes que sont le désordre et le chaos, le nœud et le labyrinthe. L'univers de tous les désordres. Ce n'est pas un hasard si YouTube est tellement fasciné par toutes les formes d'instabilité morphologique de l'image, complémentaire de notre régime de métamorphose généralisée. De fait, dans cette immense hétérotopie, le terme metamorphosis nous donne de suite 27 770 résultats sur le site. Paroxysme de l'esthétique ovidienne, véritable folie du voir, puis baroque, de la métamorphose, la technique infographique du morphing, née dans le cadre des effets spéciaux, combine le goût de l'informe, l'instable, le viral et le mimétique. Elle est par là même un des micro-genres de choix des clips YouTube. 31 400 résultats. Instabilité métamorphose renvoie à une esthétique du désordre consubstantielle au régime d'hétérotopie déjà signalé. Celui-ci est d'autant plus paradoxal que l'entreprise d'archivage se dit vouée à une mise en ordre rationnelle, notamment à travers le système des tags qui permet de naviguer thématiquement entre les vidéos. Mais la perversion du système du tagging, dont la cohérence est sans cesse menacée à la fois par les stratégies promotionnelles, la prolifération des ordonnées, l'ineptie, la paresse, etc., introduit une véritable entropie dans ce projet et nous renvoie beaucoup plus à l'image néo-baroque du vertige. C'est d'ailleurs là que se situe à la fois la force colossale de cette vaste machinerie. Nul effort humain permettrait de gérer de façon véritablement encyclopédique une telle quantité de contenu en perpétuelle expansion, et son talon d'Achille. Viendront sans doute des méta-chercheurs qui permettront d'introduire plus d'ordre et d'efficacité dans la navigation entre les contenus. L'on pourra rétorquer que l'on peut affiner la recherche, mais cela ne peut se faire que selon des critères pour le moins singuliers, par durée du clip, date de mise en ligne, nombre de vues ou catégories. Il y en a quatre. Éducation, divertissement, musique, voyage et événements. Et rétrécissement pour le moins abusif de l'arbre de la connaissance évoqué par Diderot et les siens. L'on pourra enfin objecter que les contenus traditionnels sont beaucoup moins représentés de toute façon dans l'univers YouTube que tout ce qui relève de la culture pop des 30 dernières années, ce qui est déjà en soi un symptôme intéressant du déplacement collectif vers la sortie de la modernité, éclipsant de facto la tradition classique qui articula la culture occidentale pendant plus de 2 millénaires. Mais la question n'est pas là. Il y a des moyens de trouver ce que l'on cherche sur YouTube, certes. Mais la véritable expérience youtubéenne relève beaucoup plus des plaisirs de l'égarement. Le célèbre facteur WWILF, What Was I Looking For, qui définit la nouvelle herméneutique du sujet hypermoderne perpétuellement étourdi. C'est le constant appel des sirènes pour enfler le volume de trafic de la page, régi comme la toile par des principes quantitatifs stakhanovistes, qui transforme le youtubeur en link war, ou pute à hyperlien, selon l'expression consacrée par le Urban Dictionary. De fait, YouTube est une expérience qui, sous des dehors rationnels, on serait tenté de nommer chaotique. Elle est en cela effet parfait de la nouvelle épistémée, contemporaine des théories scientifiques du chaos, telles qu'exposées notamment dans The Elegant Universe, documentaire néo-baroque sur les nouvelles sciences qu'on peut dire tout autant néo-baroque. Le chaos qui se dégage de ce nouvel imaginaire scientifique constitue le véritable horizon final de YouTube, ainsi que de notre iconosphère, à la fois comme forme et comme signification. Un chaos scientifique, relativement ordonné par des probabilités, dans la lignée du polycentrisme baroque. Du baroque étymologique, le terme portugais, barroco, donc la perle à la forme irrégulière, on serait passé, selon Calabrese, au néo-baroque des fractales, forme déterminante de la nouvelle mathématique et de l'informatique. Ces modélisations complexes permettent l'émergence d'une esthétique à la croisée de l'hyperformalisme et de l'aléatoire, illustrée par le célèbre Mandelbrot 7, esthétique fractale qui est passée des t-shirts hippies aux vidéoclips YouTube, qu'ils soient ambient ou trans. 31 200 résultats pour le terme fractal. Mais outre ces tentatives de produire une nouvelle esthétique musicale et visuelle du chaos, c'est tout l'ensemble de l'univers YouTube qui, comme l'univers élégant défini par Brian Greene, est régi par une forme de chaos, à savoir le flux ininterrompu et imprévisible d'ajouts des contenus et des liens qui se créent entre ceux-ci par des systèmes fantaisistes de tagging. Véritable livre du monde dans la tradition topique jadis étudiée par Ernst Curtius, YouTube est le miroir déformé du chaos qui nous fonde, à commencer bien entendu par cette géopolitique du chaos dénoncée par Ignacio Ramonet. Car bien entendu, le chaos est aussi une idéologie, et le discours scientifique est à nouveau, comme le montrait si bien la théorie foucaultienne, à comprendre à l'intérieur d'une série d'effets de discours qui sont avant tout des effets de pouvoir. En cela, YouTube répond parfaitement dans sa pratique, son infrastructure et l'effet idéologique qu'il génère à l'idéal de globalisation néolibérale régi selon Ramonet par le système PPI, planétaire permanent immédiat immatériel, qui assure l'hégémonie aux détenteurs du nouveau pouvoir au moment où marché et communication s'imposent comme modèles généraux ayant vocation à transformer toutes les activités humaines. Magnifique duplicateur des industries culturelles hégémoniques, ainsi que support publicitaire et régulateur de flux et de données de milliards d'utilisateurs, YouTube devient l'illustration de l'harmonie néolibérale de la main invisible, en donnant précisément l'effet d'un chaos orchestré à l'image de la nouvelle Imago Mundi. De fait, la notion normative de l'ordre, propre au classicisme en esthétique, ne correspond nullement à la pratique du désordre néo-baroque. Celui-ci peut bien constituer cette seconde implosion évoquée par Tom Sherman à la lumière ou l'obscurité du vidéo vernaculaire YouTube et qui constitue l'effondrement de la postmodernité elle-même. Là, ici, je faisais allusion à un autre article que je citais de Sherman sur cette idée. Le projet, si jamais il y en eut un, encyclopédique, débouche ainsi sur une prolifération rhizomique proche des vertiges cosmologiques baroques et des théories de la déconstruction qui se voient enfin incarnées technologiquement, par où YouTube ne saurait être conçu sans les uns ni les autres. Nous assistons ainsi à la création d'un nouveau paradigme qui émerge encore confus de la crise du précédent, avec cet effet doublement paradoxal d'un paradigme du chaos qui est aussi le chaos de tout paradigme. Un univers labyrinthique. Ce désordre, malgré tout programmé, trouve, comme au XVIe siècle, une figure privilégiée dans le labyrinthe, image récurrente lorsqu'on évoque YouTube et la toile. Bertrand Gervais insiste à juste titre sur la réactivation de la figure millénaire du labyrinthe pour faire face, un peu à la façon d'un atavisme imaginaire, à la perplexité contemporaine. Mais contrairement au musement postulé par le sémiologue montréalais, errance de l'esprit quand un sujet se laisse aller au mouvement continu de sa pensée, à l'image des associations libres ou de l'écoute flottante en psychanalyse, et qui trouve dans le labyrinthe sa figure par excellence, l'activité frénétique et déstabilisante de YouTube est marquée bel et bien par la perte, dans un dédale extérieur de stimuli incessants. Outre l'esthétique de la surprise déjà évoquée, le spectateur arpenteur, car il est à la croisée des deux actions, spéculaire et exploratrice, est sans cesse happé et basculé hors du sentier qu'il s'était tracé pour mener à terme sa recherche dans la selva oscura de cette nouvelle comédie inhumaine. Comme dans les jardins et labyrinthiques du baroque, dominé par l'esthétique de la surprise permanente, l'on peut à tout moment, au détour d'une recherche quelconque sur YouTube, tomber sur quelque chose de déroutant. Le facteur « what the fuck » venant ainsi compléter celui déjà évoqué du « what was I looking for ?» Tel cet étrange mode viral du planking, activité qui consiste à adopter une aptitude aussi raide qu'une planche dans des endroits publics et se faire photographier, ou tomber sur une station de télé nord-coréenne, ou sur le « Jesus Christ twist » d'un prêtre millénariste du Midwest profond, ou sur un beau poème de l'Uruguayen Mario Benedetti, sur un vidéoclip de Popsa Slave, sur la « fish slapping dance » de Monty Python, le célèbre motto de ce sublime collectif « And now for something completely different » annonçait de fait le régime digressif de YouTube, ou encore le trailer pour un incroyable nanar dont on ne pouvait soupçonner l'existence. Il y a d'ailleurs dans le labyrinthe néo-baroque cette idée de déroute totale des repères cognitifs et sensoriels désormais associés au virtuel, notamment dans toutes les fictions qui ont trait au paradoxe des univers artificiels. Complexe, l'univers complexe est dissipé. La complexité comme concept organisateur émane de toutes les catégories précédemment citées. Elle triomphe sans conteste autour de nous, de la pensée du complexe prônée jadis par Edgar Morin aux puzzle films étudiés par Warren Buckland, Memento, Old Boy, Run All Around, Lost Highway, etc., etc., auxquels on pourrait ajouter quantité d'autres. Cet effet du désordre déjà analysé nous intéresse ici dans un autre sens, bien que tous ces phénomènes soient profondément interpénétrés. C'est le phénomène de relativisation absolue des repères qui entre ici en action, provoquant une complexification de toute stabilité linéaire et simpliste. Il y a là un paradoxe, car même si la plupart des contenus sont eux-mêmes très simplificateurs, l'effet d'ensemble est celui d'un univers qui ne cesse, par le volume même et l'hétéronomie de ses ajouts, de se complexifier. Ce qui démontre par ailleurs que la complexité peut parfaitement s'allier avec le culte de l'idiotie déjà signalé. Il existe des bêtises complexes, comme le savait Flaubert, et main contenu de YouTube est là pour le démontrer. Nouveau degré de complexité, YouTube commence à générer sa propre conscience autoréflexive. Non seulement c'est l'émergence des YouTube Studies, entamée par le YouTube Reader, auquel cette conférence voudrait modestement contribuer, mais aussi par la réappropriation esthétique par des formes d'art qu'on peut désormais baptiser de YouTube Art. Parmi quantité d'exemples, nous pourrions citer l'œuvre de Grégory Tchatonsky, Dance With Me, présentée dans le cadre du Festival Transamérique, ou dans le domaine littéraire, les œuvres de Giasson dévolues aux YouTube Series, qui montre l'aurore de tout un nouveau pan de la réflexivité youtubéenne, où, par un changement de médium, le site se voit obligé de se mirer en lui-même. Google lui-même aurait accédé, selon un article récent, à une forme d'autoconscience, à travers une nouvelle dialectique hegelienne qui passe par les vidéos de chatons. C'est toute une étude où précisément Google aurait une préférence pour chercher des images de chats et des vidéos de chats dans YouTube. Il faudra alors, pour le méta-youtubeur en herbe confronté à ce véritable vidéo-vortex sans fond, garder à l'esprit la célèbre mise en garde nietzschéenne dans « Au-delà du bien et du mal », qui pourrait bien devenir la devise des YouTube Studies dans leur ensemble. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Parmi les symptômes de ce que Calabrese nomme la dissipation des formes et des thèmes propres à toute crise des paradigmes, il en est une particulièrement centrale qui est la désubstantialisation des catégories du réel. Comme tous les autres symptômes évoqués jusqu'ici, elle fonctionne en réseau et ne peut se dégager isolément, ayant partie liée directement avec l'instabilité généralisée de l'épistémie. Nul ne peut établir in fine la véracité des contenus YouTube. Vidéos négationnistes, xénophobes ou antisémites alternent avec délires ufologiques, alchimiques, tantriques, résurrectionnistes, millénaristes ou créationnistes, au même titre que des émissions documentaires de la BBC, des extraits de téléjournaux, voire des transcriptions de cours universitaires. Nul critère, outre la surveillance de contenus potentiellement criminels ou la main invisible des dénonciations des utilisateurs pour les cas les plus litigieux, mais là encore, peut-on se fier à un système de simples dénonciateurs anonymes pour gérer la légitimité des propos dans les différents contenus ? Rien n'est prévu pour mettre de l'ordre dans ce fatras absolu d'informations, de mensonges, de demi-vérités et de pur délire. La dissipation de la catégorie du vrai, voire du simple vraisemblable, est renforcée par l'effet amplificateur des commentaires, dont le travail effectué par Steve Giasson sur les posts relatifs au club de YouTube de l'attentat du 11 septembre montre l'absolue cacophonie, souvent régie par une sorte de syndrome collectif de Gilles de la Tourette. D'où, entre autres effets collatéraux, la promotion de la conspiranoïa comme épistémée flottante de YouTube et partant de la dissipation néo-baroque. Le retour du refoulé d'une pensée magique, voire sauvage, à l'âge des ruines de la déconstruction, sorte de négatif hegelien de l'âge de l'information où tout devient du même coup désinformation, selon le principe orwellien de la novlangue. À la croisée du relativisme épistémologique et du surinvestissement herméneutique, voici advenue, étrange alliance des théories de complot de l'ultra-gauche et de l'extrême-droite, l'âge de l'hypersoupçon. La liste des liens est ici virtuellement inépuisable, proliférant dans des sites tels que Prison Planet, Propaganda Matrix, David Icke, Disclosure Project ou leur équivalent hispanique Rafapal, supposément le blog le plus consulté dans toute la blogosphère nationale, mais n'est-ce encore qu'un énième écran de fumée. Parmi les succès absolus de ce genre en expansion, nul ne peut ignorer le webbuster Zeitgeist de Peter Joseph, dont on attend le quatrième volet. Il y a là bien évidemment un enjeu majeur de la manipulation idéologique des nouveaux pouvoirs. Cette guerre idéologique qui sous-tend la dissolution du vraisemblable et accompagne le meurtre parfait diagnostiqué par Baudrillard comme ultime déréalisation du réel. Elle insiste ainsi de façon éclatante sur le fait que toute image est désormais impure et relève du simulacre, toute illusion mimétique ne pouvant que disparaître. Tandis que le thème de la réalité manipulée devient, sous l'influence de l'œuvre visionnaire de Philip K. Dick, le leitmotiv de la fiction et de la philosophie contemporaine. La cause célèbre de Lonely Girl 15 montra de façon éclatante l'aporie des réalia sur le site. Et là, il y a tout un article de Patricia Lange sur le fait que c'était pas une vraie, enfin que les gens ont cru que c'était une vraie fille solitaire, alors que c'était toute une équipe, etc., etc. Bon, je passe, continue. Belt and Chaung et idéologie de YouTube. À travers toutes ces catégories, on constate que les formes stables, ordonnées, régulières ou symétriques sont systématiquement inversées. Je commence à sauter parce que j'ai encore quelques pages. Enfin, pour compenser quelque peu cette approche avant tout formaliste, une petite réflexion sociopolitique s'impose. De prime abord, YouTube s'érige en pure incarnation du fantasme de la main invisible qui régit cette entelechie essentiellement idéologique qu'est le marché. Dans son flux perpétuel d'offres et demandes, il se pose comme la dérégulation ultime d'un libre commerce exponentiel, alors qu'il est de fait encadré par toute une série de contraintes. Tout d'abord par des strictes lois de copyright où s'affirment les monopoles du big business médiatique et qu'elles transforment par ailleurs le site en perpétuel support publicitaire, où l'on retrouve le bon vieux dirigisme médiatique des masses. Et l'on sait à quel point YouTube est devenu un secteur déterminant du marketing corporatif. La défense de la propriété privée alterne par ailleurs dans un jeu complexe avec le piratage, qui, sans cesse désavoué, comme à l'époque naissante du capitalisme, qui pourtant s'en abreuva, est de facto encouragé par le format, permettant aussi d'être à la fois dans le concert des grands organismes corporatifs et dans les tranchées de la guérilla virale. Enfin, pour ménager la bonne conscience du système, écho de l'état minimal dans le modèle idéologique néolibéral, les contenus sont soumis à une série d'exclusions normatives, qui vont de la pornographie comme mode de représentation à des tabous ultimes de l'âge post-moral, comme la pédophilie ou le terrorisme, dont le contour est, on le sait, de plus en plus flou. Ces contraintes ne se présentent pas, et c'est là un aspect essentiel de ce dispositif, comme hétérodirigé, mais bien comme pure autorégulation. YouTube devient ainsi une pure métaphore littéralisée, support matériel de l'idéologie néolibérale qui prend le relais d'autres artefacts du passé qui illustraient ce que l'on appelait le monde libre et qui est devenu, par antiphrase, l'innommé axe du bien. Le Peabody Award de 2008, décerné au site, vantait ainsi son incarnation et promotion de la démocratie. Mais là n'est peut-être pas encore l'essentiel. L'on sait que pour Gianni Vattimo, les réseaux télécommunicationnels où s'inscrit YouTube, bien loin de servir la transparence, ont au contraire obscurci les choses en créant une situation de brouillage et de cacophonie de représentation. C'est cette même cacophonie que l'on retrouve poussée ad absurdum par notre site, déconsidérant toute vision d'ensemble et tout point de vue unitaire. Cette pluralisation et ce télescopage continu ne rendent pas la société pour autant plus éclairée ou plus éduquée. Je cite Vattimo dans La Société Transparente, « L'intensification des possibilités d'information sur la réalité dans ses aspects les plus divers rend l'idée même d'une réalité de moins en moins concevable. » À travers YouTube, la réalité disparaît comme horizon dans le croisement et le télescopage des images et des multiples interprétations. L'idéal d'émancipation de l'Aufklärung, la célèbre sortie de la minorité prônée par Kant, basée sur le discernement de la raison et une meilleure appréhension du réel, s'y révèle alors illusoire. Le monde de la communication généralisée n'offre aucune rationalité centrale. Pour les ardents défenseurs de YouTube et de la toile en général, ceci permettrait l'expression des différences et la prise de conscience de la contingence et de la relativité de tous les systèmes. La liberté même se construirait dans cette oscillation perpétuelle des représentations et des fabulations du monde. Par là, YouTube deviendrait non seulement la vivante image du marché néolibéral, mais aussi de ce qui a été nolens volens, son expression idéologique de choix, le postmodernisme. Et c'est là où l'on retrouve le débat terminologique qui amena Calabrese à se distancier de la vulgate postmoderne. Alors que celle-ci s'affirmait progressivement comme l'idiot utile du néolibéralisme, proclamant la fin des récits alors que triomphait le seul et unique récit du capitalisme, l'idée du néo-baroque permettait de tracer un parallélisme inquiétant avec le dispositif autoritaire d'art dirigé de masse, pour reprendre l'expression de José Antonio Maraval, qui marqua l'âge des absolutismes. Il y a 500 ans, les générations de l'âge baroque plongèrent avidement dans l'univers flottant des veilles ambiguës comme des songes, du théâtre dans le théâtre et du roman dans le roman, alors que s'installaient partout les nouveaux dispositifs de répression des états-nations monarchiques modernes. Nul symbole ne convient mieux à cette époque que les mines oppressantes où moururent des dizaines de milliers d'esclaves noirs et indiens pour aider à bâtir au-dessus de leur propre tête les magnifiques églises baroques de Ouro Preto au Brésil ou de Potosí en Bolivie. Et peut-être que nul autre ne semblera mieux convenir à notre époque, jugée par des époques futures, que l'incroyable labyrinthe YouTube, terrain de toutes les luxuriances et oisivetés transmédiatiques, tandis que les nouvelles multinationales du complexe média-militaro-industriel y étendent sans cesse leur pouvoir, éclipsant par une immense cacophonie l'alarmante pénurie des images absentes qui, du coup, constituent l'angle mort de notre folie du voir. N'oublions pas qu'il n'y a sur YouTube ni nulle part ailleurs les images des milliers d'Irakiens tués dans les bombardements de l'Alliance contre l'Axe du Mal. Que ce soit sous la forme de la propagande virale essaimée dans le site, ou plus insidieusement, sous celle de l'expression d'une intimité personnelle étalée en la plus grande extimité dans ces vlogs où la culture du narcissisme s'allie avec le culte de la célébrité, le moi s'exhibant le plus souvent par le biais de références à des icônes populaires, le cas le plus célèbre étant « Leave Britney Alone », YouTube reste avant tout une célébration de la société médiatique dont il est lui-même devenu l'emblème. Comme l'écrit entre autres Alexandra Juhasz, A people's forum, but not a revolution, YouTube video manifests the deep hold of corporate culture on our psyche, re-establishing that we are most at home as consumers, even when we are producers. L'invasion progressive du site par la publicité, parfois plus longue que les clips eux-mêmes, ainsi qu'inversement son recyclage par les mass médias corporatifs, des chaînes télévisuelles aux campagnes publicitaires, ne fait donc que parachever la logique des vidéo slogans YouTube. Pithy, precise, rousing calls to action or consumption, or action as consumption. Encore une fois, le message est le médium, et le médium est le massage, selon les mantras du gourou de la vieille médiologie, Marshall McLuhan. Symbole parfait d'une nouvelle aliénation, le succès spectaculaire du site, acheté pour 1,65 billion en octobre 2006 par Google, YouTube pourrait valoir maintenant en 2012 45,7 billions, est bâti sur une structure d'une réductable efficacité, où, je cite toujours Juhasz, l'utilisateur esclave fait tout le travail. Il fournit le contenu, l'évalue, le censure, le regarde, signale qu'il était là et mène ses pupilles affamées et tourmentées vers les publicités. Voilà le véritable « you » dans YouTube, fêté par un vieux géant médiatique comme Time Magazine comme personnage de l'année en 2006. Version premier mondiste, donc douce, participative et ludique, du nouvel esclavagisme qui constitue l'infrastructure de notre économie globalisée. Cette logique s'inscrit par ailleurs dans une entreprise plus générale d'hégémonisation, comme l'exprime Elisabeth Loche. Bon, là, je saute un peu la longue citation de Loche, qui part de Debord et de Virilio. Comme l'a bien montré le procès fait par Viacom au site en juillet 2008, celui-ci n'est pas seulement voyeuriste dans sa production et réception, mais aussi dans sa structure même, transformant l'errance infinie des YouTubeurs en gigantesque banque de données dont les utilisations futures restent encore inconnues. Enfin, n'oublions pas que ces petites capsules d'humour, de fantaisie, de cuteness, de sexiness ou de coolitude ne sont en fin de compte ni plus ni moins que les nouveaux agréments qui, tels les snacks dévorés à la va-vite devant les écrans toujours allumés de leurs machines, ou plus encore les feuilles de coca mâchées par les esclaves de Potosi, rendent supportable, dernière idéologie de consolation au sens gramscien, la vie des petits soldats du secteur tertiaire à l'ère post-industrielle. YouTube devient ainsi bouffée d'escapisme minimal dans la lignée de ces tentatives de fuite étudiées par Stanley Cohen et Laurie Taylor dans leur opus post-situationniste Escape Attempt, The Struggle of Resistance in Everyday Life. La micro-fuite quotidienne de l'homme corporatif qui, broyé par le cauchemar de la répétition, cherche dans la réitération ludique et dérisoire des mêmes YouTubéens une parodie bienveillante de sa propre absurdité. Est-ce pour cela que l'utopisme communautaire du partage dégénère si souvent en une escalade de violence verbale sans précédent ? La longue complainte ininterrompue de la communauté inversée des haters ne serait-elle alors que le cri, tout aussi dérisoire que les chatons, les galipettes ou les gargarismes qu'il exècre, de la conscience malheureuse du YouTuber en proie à l'expérience de sa propre négativité, et ce, au moment même où la machine Google apprend à aimer les félidés. Merci.